il devait faire le détour du pays d'Édom. Et verset 5, nous lisons que le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Nous allons nous attarder sur ce passage aujourd'hui. Vous connaissez, on le voit encore aujourd'hui, le symbole, plutôt l'enseigne des pharmaciens ou des docteurs. En voici l'origine. Vous savez, c'est une espèce de bâton entouré par un serpent ou deux serpents. Et c'est un peu pour dire, ici, on guérit. Et c'est l'histoire que nous allons maintenant regarder plus en détail. La Bible, nous l'avons dit, est toujours le meilleur commentaire sur la Bible elle-même. Et vous savez sans doute qu'on retrouve l'explication de ce passage dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus lui-même qui l'utilise. Donc on va écouter ce que Jésus nous dit à propos de l'interprétation de ce passage. Not right away. Il est question de murmures. Vous savez que ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ça, c'est la huitième fois qui est vraiment rapportée en détail. Ils ont l'habitude de rouspéter, de critiquer, de râler.
Grumble.
Ah oui, c'est vrai. Et malheureusement, c'est une habitude que nous avons souvent prise. Et comme on l'a déjà dit, plutôt que de rouspéter, mieux vaut prier. Et là encore, le Seigneur doit reprendre son peuple. Merci. Pour leur bien, pour leur faire apprendre une bonne leçon. Il envoie des serpents venimeux. Il y en a qui aiment les serpents parmi nous? Il y a toujours quelques personnes qui aiment les serpents. Mais en général, les serpents, ce n'est pas quelque chose qui provoque de l'affection. Ça rampe, ça a l'air vicieux, c'est traître, on ne les entend pas venir. Il est question de serpents brûlants. Burning. Alors, il y a deux façons de voir la chose. Certains disent que peut-être il y a une race de serpents de couleur cuivre dans la région, couleur cuivre orangée. Fiery serpents. Sometimes they use fiery serpents. Et donc ça ressemble à du feu parce qu'il y a ces couleurs, et s'il y en a beaucoup en grand nombre, comme c'était le cas, on a l'impression que ce sont des flammes. Vous vous souvenez des aventuriers de l'Arche perdue? Avec Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones. Qui sont suspendus en haut et qui disent « Je vois le sol bouger ». Et ça grouille de serpents venimeux très dangereux. Ici, c'était une réalité. Une autre façon d'expliquer pourquoi on disait que c'était des serpents de feu ou des serpents brûlants, c'est parce qu'ils avaient un venin mortel. Et quand on est mordu, il y a une intense sensation de brûlure. Et donc, ce n'est pas quelque chose de très agréable. Non seulement ils les mordent, mais les gens meurent de ces morsures de serpents. Mais verset 7, le peuple se rend auprès de Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et donc Moïse, encore une fois plein d'amour, va prier pour ce peuple qui vient de le critiquer une fois de plus. C'était toujours un bon exemple pour tous les pasteurs, Moïse. De patience et d'amour. Mais on a vu la semaine dernière qu'il avait mal représenté Dieu. Il avait perdu sa patience en frappant le rocher deux fois. Et on a dit qu'il avait mal représenté la grâce infinie de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse de faire un serpent brûlant, de le façonner, de le placer en bronze et de le placer sur une perche bien en vue. Et que quiconque avait été mordu devait contempler ce serpent, le regarder, et sa vie serait sauve. Et la chose la plus incroyable, verset 9, c'est que ça marche. Il y en avait qui étaient mordus, ils regardaient, ah, la fièvre tombait, ils se sentaient en pleine forme, ils repartaient. C'est vrai que c'est un passage un peu étrange, et s'il n'y avait pas le commentaire de Jésus, on se demanderait à quoi ça correspond. Mais vous vous souvenez de la rencontre de Jésus avec Nicodème cette nuit-là? Chapitre 3 de l'évangile de Jean. Souvenez comment Jésus expliquait à Nicodème que si un homme ne naissait de nouveau, il ne pouvait entrer dans le royaume, il ne pouvait voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, très terre à terre, lui a dit « Mais on peut pas rentrer dans le ventre de sa maman une fois qu'on est vieux. » Mais Jésus continue « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, il explique que nous avons un corps physique, nous sommes nés de la chair. Mais pour avoir une vie spirituelle, il faut une nouvelle naissance. Et plus loin, il va nous expliquer comment avoir cette nouvelle naissance. Et au verset 14, il explique... Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Donc Jésus nous explique que ce serpent de bronze, c'est un type, une préfiguration du Christ. Il est l'image du salut que Jésus nous offre en lui. Il y a un besoin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la méningite en France. Si vous étiez dans la voiture 367 du TGV allant de Douai à Paris, le je ne sais plus combien, vous devez vous faire donner un vaccin. Parce qu'il y a quelqu'un qui était dans ce train et qui a une crise de méningite aiguë. Je ne sais pas s'il est mort ou pas. On estime à près de 20 000 personnes le nombre de, 20 000, le nombre de personnes qui meurent en France qui pourraient être guéries s'ils avaient reçu un vaccin ou des médicaments. Par an, chaque année dans le monde, il meurt la population de la France, 60 millions de personnes. Et ces gens partent, la plupart, pour l'éternité, sans avoir été guéris de la maladie la plus terrible, la maladie du péché. Parce que la maladie du péché, elle ne crée pas simplement la mort physique, elle conduit à la mort éternelle. Ces gens qui n'ont pas reçu le remède de Jésus-Christ partent pour la damnation éternelle. La Bible explique que lorsque nous sommes détournés de Dieu, nous avons péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est à cause du péché que la mort est entrée dans le monde. Et c'est une maladie héréditaire, le péché. La Bible nous assure qu'il n'y a pas d'exception. Le monde nous dit souvent, oh, cette personne, elle est tellement gentille. La Bible dit que tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Chaque personne qui naît dans ce monde est mordue par le serpent brûlant du péché. Et si rien n'est fait, sa destinée, c'est la mort éternelle. Il y a un besoin, encore faut-il le reconnaître. C'est un peu comme si quelqu'un avait la leucémie et disait « non, j'ai rien ». Il faut reconnaître que nous avons un problème, que nous sommes malades pour aller nous faire soigner. Nous voyons ici la grâce de Dieu. Les gens avaient murmuré. Dieu a envoyé la morsure du serpent. Les gens reconnaissent leurs problèmes, ils confessent, Dieu envoie sa grâce. Et donc, dans son amour infini, dans sa grâce, il offre un remède. La prière de Moïse, c'est un peu comme la prière de Jésus sur la croix qui dit « Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». La première fois que j'ai entendu parler de ce serpent, de Jésus disant qu'il devait être comme le serpent élevé, J'ai pas bien compris. Parce que le serpent dans la Bible, c'est un symbole du diable. C'est un symbole du péché. Satan, vous le savez, est apparu dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent. Jean l'appelle dans l'Apocalypse le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Une autre chose que l'on voit dans la Bible, c'est que le bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain, copper, tin. Le bronze, peu importe la composition, c'est un symbole de jugement. Un jugement du péché dans la Bible. Et c'est vrai que Jésus, en principe, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Tous les animaux qu'on offrait en sacrifice étaient des animaux purs. Il y avait les taureaux, les béliers, les tourterelles. Et quand ils meurent, ça fait mal au cœur, quelque part. Mais Jésus a bien dit qu'il était lui-même l'aboutissement de ce serpent monté sur une perche. Et ça nous rappelle que lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus a accepté une humiliation que nous ne pouvons pas mesurer. Nous savons qu'il était l'homme parfait, sans tache, sans péché. Mais quelque part, il a accepté de devenir ce serpent sur une perche. Et en devenant ce serpent, c'est comme ça qu'il a pris tout notre péché sur lui. Il a subi la malédiction divine. Il a pris notre place. Et c'est à un tel Christ qu'il faut regarder pour être sauvé. Ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche. C'est merveilleux, le petit Jésus dans la crèche, parce que c'est le début de sa venue sur terre pour ce but de prendre nos péchés. Mais remarquons bien que le serpent ne servait à rien dans la main de Moïse, il fallait qu'il soit élevé. Jésus a dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et il le répète dans Jean 8, 28, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, dans Jean 12, il dit, quand moi j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il disait cela pour indiquer de quelle manière il allait mourir. Donc la prochaine fois que vous êtes à la pharmacie, vous pouvez expliquer à votre pharmacien que ce serpent représente le Christ mort pour les péchés du pharmacien. Alors il va peut-être vous dire, mais c'est ridicule votre histoire. Les gens avaient demandé que Moïse prie pour que Dieu éloigne les serpents. Le plan de Dieu était différent. Il voulait que la morsure de la mort soit vaincue par la foi. Sa réponse était « Regardez et vivez ». Ce n'est pas en ignorant les morsures, en tapant sur les serpents avec des barres de fer, en prenant un médicament spécial, en faisant passer une loi anti-serpent, ou alors en montant à la perche pour aller toucher le serpent. Le salut ne venait que de ce regard de foi vers le serpent. Peut-être qu'il y en avait qui disaient « Oh, laisse-moi avec tes histoires religieuses, toi. » Vous êtes une secte, on vous a bourré le crâne. Laissez-moi mourir tranquille. Le prophète Ésaïe nous rapporte la parole de l'Éternel qui dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Le remède était disponible. Il n'était pas caché dans un coin du camp. Il était là bien en vue de tous. Christ aujourd'hui est prêt à vous sauver. Il n'est pas loin. Il est vivant, il est au milieu de nous. On trouve dans Romains, Paul nous dit, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Nous n'avons rien à payer pour regarder. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, nous dit Jean. Peut-être qu'il y en avait dit, il y en avait qui se disaient, oh si c'est gratuit, alors ça ne doit pas marcher. On nous fait croire que plus on dépense d'argent, plus les soins sont meilleurs. Si c'est gratuit, c'est de mauvaise qualité. Si on fait un concert et qu'on laisse rentrer les gens gratuitement, ça ne doit pas être des très bons musiciens. Par contre, si on fait payer 200 balles, alors là, ça doit être bien. Allons-y. Il y avait un seul serpent. Il était suffisant pour tout le camp. Il n'y avait besoin de rien d'autre. Christ est suffisant pour notre salut. Encore une fois, les mourants n'étaient pas sauvés en jetant un coup d'œil au serpent. Puis en observant les commandements de la loi, ou en regardant le serpent, puis en allant offrir un sacrifice. Ou en regardant le serpent et en promettant de mieux faire. Ils étaient sauvés simplement en regardant par la foi ce serpent. Une chose très importante, c'est que ils devaient regarder eux-mêmes personnellement. Ils ne pouvaient pas dire, tiens, toi qui vas à l'église dimanche, tu peux regarder et tu me diras. Ou mon grand-père a déjà regardé. Ou j'ai des amis qui ont regardé. Non, il fallait que chaque personne regarde personnellement le serpent élevé. Ce qui était merveilleux, c'est que la guérison était immédiate. Le salut, ce n'est pas un long processus. Il y en a qui veulent d'abord tout étudier. dans l'espoir de tout comprendre. Mais bien sûr, ils n'y arrivent jamais à tout comprendre. Le salut, c'est un miracle immédiat qui prend place quand le pécheur regarde à Jésus par la foi. Et la mort et la résurrection de Christ, ça ne nous sauve pas un petit peu à la fois. Il nous sauve instantanément, immédiatement et complètement. C'était un remède universel. Il y en a qui disent « Oh, tous les chemins mènent à Rome ». Il y a du bien dans toutes les religions. Il y a plusieurs façons d'arriver à Dieu. Plusieurs façons d'être sauvé. Ne soyez pas aussi intolérants. C'est ce qu'ils auraient pu dire. Non, arrête avec ton histoire de regarder le serpent. Il doit y avoir d'autres façons. Mais il n'y avait qu'une seule façon d'être sauvé. Et il en est de même aujourd'hui. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus avait dit, « Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Si nous croyons que nous avons ici la parole de Dieu, nous pouvons affirmer à ceux qui nous entourent que s'ils ne regardent pas à Jésus, ils sont morts, perdus pour toujours. Et si vous ne le faites pas, s'ils avaient honte, c'est peut-être parce que vous ne croyez pas que c'est vraiment la parole de Dieu. Ou alors vous vous moquez de ceux qui vous entourent. Vous ne les aimez pas vraiment. Comment ces gens qui mouraient pouvaient-ils savoir que le remède allait marcher? Il y avait une double assurance. Hein, comme les doubles coques des pétroliers. Double hull. Il y avait d'abord l'assurance de la parole de Dieu. Dieu avait dit, promis, si quelqu'un regarde, il sera sauvé. Et la deuxième assurance, c'était ce qui se passait autour d'eux. Ils voyaient peut-être leur voisin qui avait regardé, qui se relevait, sauvé. Dieu ne donnait pas de révélation spéciale. Non, il n'y avait pas nécessairement des émotions particulières. Il fallait faire simplement confiance à la parole de Dieu. Alors encore une fois, votre pharmacien, quand vous lui expliquerez à quoi correspond son caducée, c'est le nom qu'ils ont pour ce serpent, il va peut-être vous dire, c'est ridicule votre histoire. La Bible nous apprend que c'est ce à quoi nous devons nous attendre. La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Power of God. Croire qu'un regarder un serpent va nous sauver. Aujourd'hui, les gens, la majorité, les gouvernements se moquent de notre foi. Ils se moquent de la croix. Mais ils ont les serpents tout autour d'eux. Ils essayent de tuer ces serpents. De faire des remèdes antivenins. Mais nous pouvons constater chaque jour en ouvrant en ouvrant la télévision, en regardant les journaux, que ces remèdes fabriqués par l'homme ne marchent pas. La violence augmente à l'école. Combien y a-t-il eu de réformes? On essaye par l'éducation, une meilleure législation, une nouvelle politique. Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau politicien. On essaye un autre, on reprend l'autre, c'est la même chose. On n'a pas réussi à se débarrasser de la violence. On n'arrive pas à se débarrasser de la misère. Même malgré les progrès économiques, il y a encore des SDF, il y a encore des RMistes. Les gens continuent de mourir dans leurs péchés. Nous avons la responsabilité de leur dire que la seule solution, c'est le Sauveur élevé, c'est la croix de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous reparle plus tard de ce serpent de bronze pour nous dire qu'en fait, il avait été conservé comme une relique. Et il le fait briser en disant « Neushtan ». Neushtan, ça veut dire « ce n'est que du bronze ». C'est qu'un morceau de bronze. Mais ça, c'est bien dans notre nature d'homme que de nous attacher à des choses matérielles et d'oublier le Dieu qui mérite notre confiance. Ils avaient fini par croire que c'était le serpent qui les guérissait. Non, c'était Dieu qui les guérissait. Un auteur, Warren Wiersbe, fait remarquer qu'il y a par le monde des milliers, des millions de reliques. Idols, qui volent à Dieu la confiance et la gloire qui lui reviennent. On va aller toucher les pieds de la statue qui a déjà guéri des gens. Au lieu de nous tourner simplement par la foi vers Dieu. L'adoration des idoles ou des reliques, ça montre deux choses. Une mauvaise chose. Ça veut dire qu'on a perdu la conscience de la présence de Dieu dans notre vie. La relique, ça nous rappelle le passé quand Dieu était et c'est si proche de nous. Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cette adoration des idoles, des reliques, ça montre quand même une bonne chose. Ce désir, cette soif de faire l'expérience de Dieu dans notre cœur. Et pourquoi ne pas venir à la vraie fontaine de vie? Simplement regarder à Christ. J'ai une petite histoire à vous lire. C'est l'histoire d'une conversion. Ça se passait en Angleterre en 1850. Et il y avait une tempête de neige qui avait paralysé la ville. Et un jeune homme avait décidé d'aller à une église plus près de chez lui. Et là, il dit que dans cette église, le prédicateur n'avait pas venir ce matin-là parce qu'il était bloqué par la neige. Et il dit finalement, un homme d'une grande maigreur, un cordonnier ou un tailleur, monta dans la chaire pour prêcher. Cet homme n'était pas instruit. Il ne pouvait pas sortir de son texte parce qu'il n'avait qu'une chose, il n'avait rien d'autre à dire. Et le texte disait: regardez à moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Et ce jeune homme dit qu'il ne prononçait même pas les mots correctement, mais ça n'avait pas d'importance. Il me semblait qu'il y avait dans ce texte une lueur d'espoir pour moi. Et le prédicateur commença en disant: c'est vraiment tout simple. Le texte dit: regardez. C'est pas trop compliqué de regarder. C'est pas comme de lever le pied ou le doigt, c'est juste regarder. C'est pas la peine d'avoir fait des études pour regarder. Même si vous êtes le plus grand idiot du monde, vous pouvez regarder. Pas la peine de gagner des millions pour regarder. Même un enfant peut regarder. Mais voilà, le texte dit: regardez à moi. Beaucoup d'entre vous, vous regardez à vous-même, mais vous ne trouvez jamais aucun réconfort en vous-même. Non, Jésus a dit: regardez à moi. Il y en a qui se disent: il faut attendre que l'Esprit fasse son œuvre. Le prédicateur continue en disant: vous occupez pas de ça pour l'instant, regardez à Christ. Continua en disant: regardez à moi. Voyez les gouttes de sang. Regardez à moi, je suis pendu à la croix. Regardez à moi, je suis mort enseveli. Regardez à moi, je suis ressuscité. Regardez à moi, je monte au ciel. Regardez à moi, je suis assis à la droite du Père. Quand il eut réussi à délayer son discours pendant environ 10 minutes, il arriva au bout de son sermon. Mais là, ce prédicateur remarqua ce jeune homme qu'il ne connaissait pas. Et lui dit: jeune homme, tu as l'air très malheureux. Mais l'auteur dit: j'étais pas habitué à ce qu'on me fasse des remarques depuis la chaire. Mais il dit: j'ai reçu ça comme un coup dans le cœur. Et puis il continue en disant: tu seras toujours malheureux. Malheureux dans la vie et malheureux dans la mort si tu n'obéis pas à mon texte. Mais si tu le fais aujourd'hui, au moment même où tu regardes, tu seras sauvé. Et puis là, il l'interpella. Jeune homme, regarde à Christ. Regarde, regarde, tu n'as rien d'autre à faire qu'à regarder et vivre. Je vis tout de suite le chemin du salut. Je ne me rappelle plus ce qu'il a dit après tout ça. Regarde. Comme ce mot me parut charmant. Je regardais en perdre les yeux. En cet endroit, à cet instant précis, le nuage disparut. L'obscurité s'enfuit et je vis le soleil. J'aurais pu me lever à l'instant même et chanter ma joie. Si seulement quelqu'un m'avait dit auparavant, confie-toi en Christ et tu seras sauvé. En rentrant chez lui, il ne pouvait pas s'empêcher d'aller voir ses amis et de leur dire ce qui s'était passé. Et c'est ainsi que fut converti Charles Spurgeon. Un Anglais, le plus grand prédicateur de l'histoire moderne. C'est ainsi qu'il fut converti en regardant à Christ. Le serpent de bronze. Nous avons tous besoin de le regarder. Prions. Seigneur, merci pour cette histoire étrange, mais cette histoire qui nous donne la vie. Seigneur, pardonne-nous pour faire tant de choses à côté de la seule chose qui est nécessaire. Seigneur, tu nous dis qu'en fait, si nous voulons mourir dans nos péchés, c'est facile. Nous n'avons rien à faire. Mais Seigneur, si nous voulons vivre, alors Seigneur, tu nous dis de regarder à toi. Et pour ceux qui peut-être aujourd'hui sont interpellés par Jésus, voyez que votre vie est remplie de péchés. Peut-être que vous blâmez vos circonstances, votre éducation, le gouvernement, peu importe. La Bible dit que vous avez la maladie du péché. Nos familles ont la maladie du péché. Notre pays, le gouvernement, a la maladie du péché. Et la seule solution, elle est très simple, elle est très belle, c'est de regarder à toi sur la croix, Seigneur. S'il y en a parmi vous qui veulent recevoir ce pardon, cette assurance de salut, je vais vous demander de vous lever en silence. Il n'y a pas besoin de connaître toute la Bible. Simplement le désir dans votre cœur de regarder à Jésus. La Bible nous dit que le salut, c'est aujourd'hui. Lorsque vous allez aux urgences, au SAMU, ce n'est pas le lendemain qu'il faut être soigné, c'est le jour même. Vous n'avez pas le courage de vous lever, mais au moins de lever la main. Et peut-être que vous voulez m'en parler davantage. N'attendez pas. Ou parlez-en à un autre ami, un chrétien. Sinon, vous allez mourir. Éternellement. Regardez à moi et vous serez sauvés. C'est aussi important pour ceux qui ont déjà reçu ce salut d'abord, une fois, pour toutes. Peut-être que vous êtes découragé de votre vie de chrétien. parce que vous tombez dans le péché et vous retombez dans le péché. Vous n'êtes plus sûr que Dieu vous aime vraiment. Dieu ne vous demande pas de regarder à votre manque de sainteté. Il vous demande encore une fois de regarder à lui. Et c'est en le regardant qu'il nous transforme. Lorsque nous regardons Dieu lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Merci Seigneur d'être là pour nous aimer d'une façon aussi simple. Sois glorifié Seigneur. Par le nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous donne une bonne semaine. Les yeux fixés sur lui. Amen.